Sports Morning Edition from NPR News.
Das ist in St. Peterhausen.
France Inter, le 18/20.
Et ce soir, on va essayer de voir comment peut tourner notre grande colère contre les Américains depuis cette affaire de sous-marins. Ce que ça veut dire plus durablement, on entend partout que ça va apporter de l'eau au moulin d'une émancipation européenne vis-à-vis de l'OTAN. Le fait est qu'on n'entend pas beaucoup les Européens dans cette affaire. En revanche, les Chinois, eux, et dans le même temps, étendent leur tentative d'influence. Bref, les plaques tectoniques se déplacent, on y vient tout de suite. Le bout du monde, c'est en Tunisie tout à l'heure et vous verrez qu'on a enfin trouvé un moyen d'enterrer décemment tous ces gens qui tentent la traversée vers l'Europe et qui échouent. Le bruit du monde de la suite, c'est Sébastien Logeni qui, sous les radars, a trouvé des restrictions à l'avortement ultra sévères à Saint-Marin, des révolutionnaires hongkongais qui ne veulent pas qu'on les oublie et le général Sherman qu'on a retrouvé en Californie. Vous verrez qui est ce général Sherman. 18h50, l'Amérique selon Joe Biden, grâce à Sébastien Paour. Vous verrez justement comment, là-bas, on parle de la brouille sévère avec les Français. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four qui revient sur les tentatives d'influence chinoise et ce rapport révélé ce matin sur France Inter qui les met en lumière de manière très explicite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saoudès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Bertrand Badi.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite à Sciences Po. Vous venez de publier Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale. C'est publié chez Odile Jacob. Je vais vous demander un petit exercice de pure fiction, si vous le voulez bien, Bertrand Badi. Joe Biden et Emmanuel Macron vont finir par se parler. À l'instant, on sait que Biden est impatient, ouvrez les guillemets, fermez-les, de s'entretenir avec Emmanuel Macron. C'est ce que dit un haut responsable américain. Moi, ce que je me demande, c'est en ce moment, dans le bureau ovale, croyez-vous que Biden soit en train de dire, enfin quand même, il faut qu'on essaie de se rabibocher avec les Français, ou est-ce qu'il est en train de dire, bon alors ça y est, ils sont calmés les Français ou pas, à votre avis?
Je crois que, vous savez, comme toujours dans les crises, il y a l'aspect court terme, spectaculaire, et puis il y a le long terme. Et les répliques, vous parliez de tectonique tout à l'heure, c'est ça, les répliques qui ne manqueront pas de se produire. Lorsqu'il y a une crise de cette acuité, évidemment, on essaye de mettre un peu de pommade, on essaye de calmer le jeu, parce que une crise, faut la gérer, et la gestion d'une crise qui dure, c'est quelque chose de très coûteux et très compliqué. Donc effectivement, l'idée, c'est probablement d'éteindre le feu, mais la cause du feu, ça c'est une autre affaire.
Alors on éteint le feu parce que comment ça marche, pardon de le dire comme ça, une brouille avec les États-Unis quoi. On va pas leur imposer des sanctions non plus. Comment on signifie, à part le fait qu'on ne se parle plus, mais j'ai envie de dire la belle affaire, comment on signifie un peu durablement pour que ça ait du poids une brouille de ce genre-là, ou est-ce qu'au fond on ne peut pas le signifier aussi violemment?
La diplomatie a tout prévu. Et le rappel d'ambassadeur, c'est exactement cela. C'est un geste symbolique qui n'a aucune conséquence matérielle, contrairement à la rupture des relations diplomatiques, où là, les ambassades sont fermées, donc le courant ne passe plus. Là, les ambassades continuent à fonctionner, simplement l'ambassadeur n'est pas là, ce qui correspond à une situation assez banale. Il ne faut pas croire qu'un ambassadeur dans un poste reste 12 mois sur 12 dans son bureau. On exprime un mécontentement en rappelant un ambassadeur. Alors l'autre histoire, ça va être comment va-t-on lui demander de retrouver son poste, parce que là, il faut avoir une bonne raison de dire, la tempête s'est calmée. Non pas le problème est résolu, je pense qu'on va en parler, parce que le problème, il est d'une profondeur incroyable.
Absolument.
Mais en tous les cas, la phase aiguë est passée. Pour que la phase aiguë passe, eh bien, il faut qu'il y ait un geste qui fait que aucune des deux parties ne perde la face. Et ça, c'est très compliqué.
Donc, il va falloir donner une forme de contrepartie pour qu'on estime être, sinon réparé, en tout cas, qu'on a remis la relation sur de bons rails. C'est comme ça qu'on va appeler ça dans les chancelleries.
Alors, là aussi, la diplomatie a prévu tout un matériel pour répondre à votre demande qui va du symbolique, c'est-à-dire des phrases aimables, peut-être une rencontre, une rencontre précipitée, peut-être quelques honneurs ou quelques marques d'affection et d'estime portées à la France. C'est une possibilité, c'est ce qu'on appelle la diplomatie cosmétique. Et puis, il peut y avoir aussi autre chose. C'est-à-dire, n'oubliez pas que derrière ce contentieux, qui encore une fois a une signification très profonde, il y a un aspect important qui est l'aspect financier et juridique, c'est-à-dire quelle compensation financière la France va pouvoir escompter dans cette affaire. Les États-Unis peuvent aider à trouver une formule de compromis ou de dédommagement. Et puis, il y a aussi tous les autres partis. Il ne faut pas oublier que l'Inde a, avec la France, un accord de même nature. Mm-hmm. Peut-être que Biden va offrir ses bons offices pour faire une médiation entre l'Inde et la France et s'assurer que l'Inde, elle, ne remettra pas en cause sa commande de matériel. Donc, il y a tout un tas de possibilités, mais ce n'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on se posera la question de savoir, dans cette affaire, qui est perdant et qui est gagnant.
Absolument. Est-ce que nous sommes les dindons de la farce au fond et nous avons tout perdu, ou est-ce qu'on a pu en récupérer un peu? Comme vous l'avez dit, il y a une profondeur évidemment dans cette crise qui va bien au-delà de cette cosmétique diplomatique, comme vous le dites. Encore une fois, je me mets à la place de Biden dans le bureau ovale au moment où cette décision est prise, où on sait où on va avec cette histoire de sous-marin. Est-ce que ce que dit Biden, c'est oui, nous pouvons sacrifier la relation européenne, ou est-ce oui, nous pouvons sacrifier la relation avec la France? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, selon vous?
Alors, il a dit une chose très importante durant sa campagne électorale qui a été reprise dans son discours d'investiture en janvier dernier, à savoir que les États-Unis devaient réinventer leur politique étrangère. C'est un verbe lourd, réinventer. Et pourquoi a-t-il dit cela? Parce que il observait, comme beaucoup, même d'un certain point de vue comme son prédécesseur, que le modèle de politique étrangère américain, qui est très ancien, on peut y revenir aussi, ne correspond plus aux réalités nouvelles, et notamment aux réalités de cette fameuse mondialisation que les États-Unis avaient portée pendant des années et des années, et dont ils s'aperçoivent qu'elle tourne à leur désavantage. Donc, il faut repositionner les États-Unis. Je pense qu'il faut interpréter ce geste dans ce double contexte de réinvention tel que je l'ai défini tout à l'heure, et aussi de décalage. Nous avons fonctionné, lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, comme si rien de fondamental ne s'était passé dans la recomposition du système international. Or, le système international ne fonctionne pas du tout aujourd'hui comme il fonctionnait pendant la guerre froide, et pourtant, regardez les instruments de la politique internationale du camp occidental, il est calqué sur ce qui se passait pendant la bipolarité, c'est-à-dire une alliance militaire, c'est-à-dire une conception campiste, c'est-à-dire un camp occidental presque muré autour de lui-même, et une politique étrangère qui est fondée essentiellement sur l'idée d'un front, mais un front face à qui? Et c'est là le problème. Et même si c'est face à la Chine c'est pas l'URSS. Donc il faut tout changer.
Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment que on est en train, pour l'instant, au stade embryonnaire chez les Américains, de créer une espèce de d'OTAN pacifique, on appellera ça l'OTOP, dans l'océan Pacifique, pour l'instant à trois, mais est-ce qu'on est dans le même genre de barrage, on va dire, qui existe déjà de l'autre côté pour l'OTAN et qui, effectivement, vous l'avez dit, date de la guerre froide? Est-ce qu'on est en train de créer le même genre de choses dans le Pacifique?
Alors, je ne sais pas si c'est ça l'intention, je ne pense pas, et si c'était ça, ce serait désastreux, parce que, comme je le disais il y a un instant, la Chine, c'est pas l'URSS. Pensez que en 2020, il y a eu pour 123 milliards d'investissements américains en Chine. C'est-à-dire que vous avez entre la Chine et les États-Unis une situation pas toujours explicite, c'est vrai, d'interdépendance économique très forte. Vous avez une Chine qui ne fonctionne pas aujourd'hui comme l'URSS fonctionnait du temps de la guerre froide. L'URSS n'était pas en situation d'interdépendance avec les États-Unis, ça on le sait, mais on était dans une logique frontale. Il y avait ce que l'on appelait à l'époque le rideau de fer qui séparait véritablement deux mondes.
Et les choses étaient tellement plus claires au fond.
Ben voilà. Alors que la Chine a une stratégie de pénétration. Vous en parliez tout à l'heure dans le journal. Cette pénétration prend des formes extrêmement diverses, mais ne se traduit pas par des fronts militaires. Et l'idée de pouvoir régler le problème chinois en créant un cordon sanitaire autour de la Chine est absurde.
Mais qu'est-ce que ça dit d'autre, en fait, quand on privilégie l'Australie, quand il y a cette histoire de contrat-là, on voit bien dans quelle zone nous sommes. Donc, est-ce que ça ne dit pas aussi ça? Nous sommes en train de créer ce cordon-là.
Non, je crois que ça veut dire peut-être trois choses et sûrement beaucoup plus. Premièrement, ça veut dire que dans ce contexte cassé, dans ce contexte de révision, l'intérêt national de chaque acteur reprend de l'importance par rapport à l'intérêt de la coalition. Pendant la guerre froide, on raisonnait en termes d'intérêt de coalition. Là, aujourd'hui, si on tenait compte de l'intérêt de coalition, on ménagerait la France. Mais ce qui compte, c'est de se tourner aussi vers l'opinion publique américaine, comme l'avait fait M. Trump en son temps, en disant « America first ». Bon, on a là la possibilité de contracter avec l'Australie quelque chose de très important et qui nous est très favorable. Eh bien, allons-y. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'effectivement, la France est en Europe. La France est en Europe. La France vise une stratégie indo-pacifique qui est assez quand même contestable, pour pas dire absurde, par rapport à la réalité même géographique. Bon, là, c'est de dire...
Mais Blinken, pourtant, lui-même a dit « mais la France compte un Indo-Pacifique ». On imagine que ça aussi, ça fait partie du discours, effectivement. Et ce discours-là a été tenu, d'ailleurs, la veille ou le jour même de l'annonce des sous-marins.
Absolument. Et puis, le troisième élément, ça veut dire que l'on ne gère plus les grands dossiers internationaux avec la grammaire classique des alliances et des coalitions, mais en fonction des opportunités. C'est un retour de cet opportunisme diplomatique. D'ailleurs, le mot a été employé, je crois, par M. Le Drian à propos des Britanniques. Il y a un retour en force de l'opportunisme parce que la mondialisation, c'est une situation de très grande fluidité. Donc, il s'agit de saisir des occasions pour les traiter. C'est ce que font les Russes et les Chinois depuis un bon bout de temps.
Donc, ça veut dire que les alliances telles qu'on les connaît sont bouleversées. Est-ce qu'en creux, ce que dit Biden, c'est de toute façon, les temps ont passé, donc il n'y aura pas une attaque sur l'Europe incessamment sous peu, donc on peut de toute façon rendre ces alliances beaucoup plus volatiles, on va dire, quitte à de temps en temps faire un 2, un 3 ou d'autres types d'alliances. Est-ce que ça veut dire qu'on ne compte plus sur une alliance à grande échelle comme vous venez de la décrire?
Je pense que le terme alliance appartient à une séquence des relations internationales. Alors des alliances, il y en a eu depuis très longtemps, mais des alliances durables, c'est-à-dire considérées comme une pièce essentielle du mécano des relations internationales, ça a commencé avec la création de l'OTAN en 1949, c'est fini en 1989. On tourne une page. Ça n'a jamais été explicité, pourquoi ? Ça n'a jamais été explicité parce que personne n'avait intérêt à l'expliciter. Les Européens se sentent de plus en plus mal à l'aise dans cette OTAN, mais surtout, il ne faut pas le dire, parce que s'il n'y a plus d'OTAN, il faut créer une défense européenne
et
on est loin du compte. Et on ne veut pas mettre la main au portefeuille pour créer cette Europe de la défense. Et du côté des États-Unis, mettre fin à l'OTAN, c'est tout simplement admettre, et ça c'est très important, la fin de l'hégémonie américaine. Comment voulez-vous qu'on parle d'hégémone s'il n'y a pas une structure d'alliance? L'hégémone, c'est Athènes du temps de la Ligue de Délos. Ben, il y avait une ligue. Et là, s'il n'y a plus d'OTAN, il n'y a plus de ligue. Il n'y a plus d'hégémonie.
Est-ce que vous faites un lien de cause à effet? En tout cas, est-ce que le calendrier est intéressant pour ça entre ce moment post-Afghanistan où on parle de la fin de l'hégémonie américaine, etc. et ce moment maintenant? Comment on relie les deux, à votre avis?
Ben, d'abord, je pense que le désastre de Kaboul, c'est bien de ça dont il s'agit, a beaucoup fait réfléchir aux États-Unis et sur le fait que si on mise sur un leadership américain, ce ne peut plus être un leadership militaire, ça doit être une autre forme de leadership. Et vous savez, depuis la défaite de Saïgon en 75, les États-Unis courent après des substituts. On a pensé à un moment au soft power, c'est-à-dire on n'est plus les leaders militaires, ça a commencé à mal tourner, donc on va être les leaders de par notre influence, de par notre puissance douce, notre soft power. Bon, ça n'a pas tellement bien marché. Ça a bien marché parce que, effectivement, le soft power américain est extrêmement puissant, ses universités, son cinéma, etc. Mais ça n'a pas marché sur le plan politique, c'est-à-dire ça n'a rallié personne à la diplomatie américaine. Alors, on est en train de chercher autre chose. Et Mais je pense qu'effectivement, Kaboul a accéléré les choses. C'est-à-dire, on s'aperçoit que c'est davantage à travers des coups diplomatico-économiques que l'on pourra, ou des affinités anglo-saxonnes, que l'on pourra reconstituer quelque chose.
Bertrand Maddy, vous disiez tout à l'heure effectivement que nous n'étions pas prêts à une défense européenne, alors que la réponse, évidemment, se trouve probablement dans ces eaux-là. Vous avez été comme nous, j'imagine, frappé par le fait que l'Europe a été extrêmement silencieuse. La première réelle réponse, elle est venue cet après-midi, peu de temps avant que vous arriviez, c'est Ursula von der Leyen qui dit que la France a été traitée de façon inacceptable. Il était peut-être temps, non? Ou est-ce que le message en creux, c'est ça aussi?
La formule est un euphémisme.
Voilà. Et est-ce que le message, c'est ça, en fait? C'est, on le dit 24 heures après parce que cette alliance-là, pour l'instant, avec les Américains, on n'y touche pas.
Oui, moi ça me fait un peu penser au Sahel, c'est-à-dire où la France appelle ses partenaires depuis des années et des années à la rejoindre au Sahel. On dit rien dans un premier temps, on fait une toute petite chose dans un second temps, et puis on n'en parle plus dans un troisième temps. L'idée de défense européenne, elle a, à mon avis, deux faiblesses. D'abord, je suis pas sûr qu'il y ait, comme je disais tout à l'heure, une volonté politique des Européens de miser sur cette défense coûteuse. Et puis, deuxièmement, il y a une autre chose. Si l'alliance ne fonctionne plus au niveau de l'OTAN, comment voulez-vous qu'elle se reconstitue au niveau de l'Europe? Faire une OTAN européenne, c'est-à-dire c'est la même chose que l'OTAN, moins deux, c'est-à-dire moins le Canada et les États-Unis? Moi, je ne pense pas que l'invention qui est attendue de tous vienne de là. Elle viendra d'ailleurs.
Bertrand m'a dit, nous avons, nous, ce qu'on appelle l'article 5, on parlait tout à l'heure, ça veut dire que si l'un d'entre nous est attaqué dans l'OTAN, les autres sont censés répliquer. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passerait si d'aventure, en voulant mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud, les Chinois s'approchaient dangereusement de Taïwan, voire attaquaient Taïwan? Qu'est-ce que font les États-Unis dans ce cas de figure?
Bah, écoutez, quand on considère que les États-Unis n'ont pas considéré nécessaire d'endiguer les talibans en Afghanistan, est-ce que véritablement ils vont se lancer dans un travail d'endiguement de la puissance chinoise en Asie? Bon, moi je fais le pari, mais vous savez, on peut toujours se tromper, que la Chine a une stratégie diplomatique post-hégémonique, c'est-à-dire considère que la voie de la réussite ne passe pas forcément par la musculation politico-militaire. Donc je ne pense pas qu'elle se lancerait dans ce genre d'aventurisme. Si elle le faisait, je pense que les États-Unis seraient sacrément en difficulté. Donc effectivement, encore une fois, ce modèle du grand frère qui court au secours du petit frère, c'est un modèle qui a du plomb dans l'aile.
Voilà, mais peut-être que la leçon a été apprise effectivement ces derniers jours. Bertrand Maddy, je vous remercie beaucoup. Vous revenez quand vous voulez dans Un jour dans le monde. Je rappelle que vous venez de publier Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, et c'est chez Odile Jacob.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Tunisie, c'est le bruit du monde, avec ce cimetière enfin digne de ce nom, construit pour les Tunisiens, pour tous ceux qui sont morts en tentant la traversée vers l'Europe. Ils sont de plus en plus nombreux et laissés le plus souvent sans sépulture. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legénie.
Des militants pro-démocratie à Hong Kong tentent de sauvegarder le souvenir de leur mouvement sur des disques durs.
L'Amérique, selon Biden. Tiens, la revoilà. Bonsoir Sébastien Paouin.
Bonsoir. On voit même des photos, des images de Macron avec Biden, bras dessus, c'était en juin,
Au
sommet du G7.
Et on verra comment ça se passe cette fois, on en parlera ensemble dans un instant. Le monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir.
Bonsoir à tous, au moment où on se dit donc que les États-Unis sont pas gentils, il y a donc ce rapport inédit qui vient d'être publié aujourd'hui sur les réseaux d'influence chinois et qui vient nous rappeler que les Chinois non plus, c'est pas gentil.
A tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Brésil où il n'y a pas que des gentils non plus, mais enfin quelques-uns quand même. Don Lamena, Vejo Passar, c'est sur France Inter.
Vejo passar pela janela as estações de trem. Passa o inverno, passa o verão, quando você vem. Vejo a lua e as estrelas e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas, sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você, a de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Meu amor não tem perfume, meu amor não tem razão, meu amor difícil, não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, mas você não vem.
Le bruit du monde, ce soir, est en Tunisie, à Zarzis, ville du sud tunisien, très touristique, à deux pas de Djerba. Et Zarzis doit aussi enterrer des centaines de corps de migrants, car les tentatives de traversée de la Méditerranée, depuis l'Afrique du Nord vers l'Italie, ont augmenté de 150% par rapport à 2020, selon les chiffres du commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Zarzis est dépassé, la pandémie vient encore tout compliquer. Un artiste algérien est venu en aide au Croissant Rouge tunisien. Il vient de créer un cimetière digne de ce nom parce que jusqu'ici, et faute de mieux, les migrants étaient jetés dans des fosses. Le reste, c'est Maureen Mercier qui raconte.
À l'arrière du petit camion, Youssef, employé municipal, laisse éclater son désespoir.
On a plein de morts.
À ses pieds, 7 cadavres en état de décomposition très avancé. Ces corps arrivent de l'hôpital après un prélèvement ADN. Le pays est dépassé. Ces corps ont dû patienter 3 semaines avant de pouvoir enfin être enterrés. L'odeur est insoutenable. Entre les sandales de Youssef, les corps débordent des sacs mortuaires mal fermés.
Comment on va le ramasser ? Parce qu'elle est sur 7 morceaux.
Les mains sont seules, les pieds seuls.
Les larmes lui montent aux yeux.
On n'a rien ici. On voulait des aides. En voiture corboyard, des sacs de cadavres. L'Italie, elle prend l'argent de l'Europe. Et Zarzis, Tunis, pas rien.
Pendant que Youssef et ses compagnons tentent de ramasser les bouts de chair, Mongi Slim, responsable du Croissant Rouge pour la région, s'affaire entre les tombes fraîchement creusées. Sur les stèles, il inscrit les rares indications des corps qu'on enterre.
Donc c'est une femme retrouvée à côté de l'hôtel, là, hôtel Bouling, qui portait un pantalon noir et un tricot rose. Et voilà donc les seules indications qu'on a.
Il y a une jambe de l'autre côté, là. La moitié d'un être humain, la moitié inférieure. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme.
Et très souvent,
c'est un bébé.
Bébé.
Dans ce cimetière, en à peine quelques semaines, plusieurs bébés ont déjà été enterrés.
Si vous regardez ici, vous allez trouver pas mal de tombes toutes petites là.
Mongi Slim évoque le petit Aylan échoué sur une plage. L'image avait ému le monde entier. Dans ce cimetière, en à peine quelques semaines, plusieurs bébés ont déjà été enterrés.
Et personne n'en parle, malheureusement.
Ici, dans le sud du pays, viennent s'échouer ceux qui sont partis de Libye ou de Tunisie sur des embarcations de fortune parce qu'ils rêvaient d'un avenir meilleur. Ils sont du Bangladesh, de Syrie, de tous les pays d'Afrique. À peine inauguré, le tiers du cimetière qui compte 600 tombes est déjà complet.
C'est exceptionnel. Le Covid aussi a fait qu'il y a une migration massive de l'Afrique vers l'Europe. On reçoit aussi bien des morts que des vivants. Cette année, on a reçu un nombre record de rescapés de mer. En 2 semaines, on a reçu juste pour la ville de Zarzis 400 personnes. Ça n'est jamais arrivé. Les vivants aussi, il faut s'en occuper, il faut leur donner à manger, il faut les suivre au niveau santé, etc. Et puis, les morts aussi, les enterrer.
Vous avez le sourire, mais ça va comment, sincèrement?
Jusqu'ici, faute de mieux, les corps étaient enfouis dans une ancienne décharge publique.
C'est dramatique qu'ils finissent leur vie comme des déchets. C'est des humains.
Rachid Koraïchi, artiste algérien, c'est grâce à lui que les naufragés ont un véritable cimetière désormais. Une tombe individuelle.
C'est la faute de ceux qui ont explosé la Libye, qui ont ouvert l'enfer. Et à la France, oubliez, il y a un monsieur qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, qui était là à faire le coq. Et on sait la suite, ce que ça a donné.
Un cimetière digne et qui permet de conserver les prélèvements ADN.
Pour moi, ça, c'est l'objectif premier. Parce que moi-même, en 1963, j'ai perdu mon frère aîné dans la même mer. Et on n'a jamais retrouvé le corps jusqu'à la seconde où je suis en train de te parler. 60 ans de deuil, pas fermé.
Ici, n'ont droit à une sépulture que la toute petite minorité des morts en Méditerranée. L'immense majorité des migrants qui meurent en mer disparaissent à tout jamais. De retour au cimetière, Youssef et ses collègues, tous employés municipaux, continuent d'enterrer les corps.
La première fois que j'ai entré à la mairie, il m'a dit, le chef, prends un camion, tu vas partir à la mer. Pourquoi ? Il m'a dit, il y en a un cadavre. C'est quoi ces cadavres ? Moi, je suis entré à la mairie pour conduire un camion. J'ai trouvé un corps sans pied. Après, un jour, il m'a dit, tu pars avec le tractopelle pour faire un trou. Ouh ! Ma fille, elle a 5 ans, elle dit, papa, il y a quelqu'un qui est mort, tu vas le faire un trou pour le mettre. C'est normal ! Où tu vas, papa ? À la cimetière, on a 7, on a 8, on a 10, on a 106, 106 cadavres. À chaque fois, 7, 6 cadavres, je ne dors pas 3 jours. Après, ça répète, 3, 4, je ne dors pas, je ne dors pas. C'est un terrible cauchemar.
Maureen Mercier, pour le reportage. Merci beaucoup, Maureen. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Et nous sommes, Sébastien, dans les rues d'un des plus petits états au monde, Saint-Marin, où l'avortement reste encore aujourd'hui un acte criminel.
Oui, si l'on voulait faire vite, Fabienne, la République de Saint-Marin, c'est un peu un mélange entre le Vatican et Monaco, un micro-état européen autonome de 33 000 habitants, enclavé dans le centre de l'Italie, connu surtout pour ses compétitions mécaniques de moto et l'influence très forte qu'exerce l'Église catholique. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Saint-Marin s'apprête dimanche prochain à organiser un référendum sur l'avortement. Cet état confetti est l'un des rares pays européens où l'IVG est toujours considéré comme un crime, comme à Malte, Andorre ou comme au Vatican. L'avortement y est totalement interdit, même en cas de viol, d'inceste, de maladie pour le fœtus ou de danger pour la mère. Une interdiction qui remonte à 1865, un crime passible aujourd'hui de 3 ans de prison pour la femme et de 6 ans ferme pour le médecin. Le projet de référendum propose d'autoriser l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse, comme en Italie, afin d'éviter justement aux femmes d'aller de l'autre côté de la frontière pour se faire avorter. Cette militante explique que les femmes saint-marinaises vont se faire avorter en dehors de Saint-Marin. Le font illégalement car l'avortement est un délit pénal ici. Tout cela est honteux, dit-elle, car dans ces conditions, les femmes ne peuvent pas avoir l'assistance dont elles devraient bénéficier. Alors, ce n'est pas la première fois que Saint-Marin tente d'assouplir sa législation, mais à chaque fois, le gouvernement conservateur et l'Église s'y sont opposés. Saint-Marin, qui a toujours eu un train de retard en termes de droits des femmes, il a fallu attendre 1986 pour que le divorce y soit accepté. Là, c'est la première fois que la population est directement consultée. Résultat du référendum dans moins d'une semaine.
Direction Hong Kong, où l'on essaie de perpétuer le souvenir de la démocratie sur des clés USB.
C'était en 2019. Voilà, des millions de manifestants, on s'en souvient, pro-démocratie, qui descendaient dans les rues au péril de leur vie pour défendre leur système contre les intrusions de Pékin. 2 ans après, il ne reste plus rien de ce mouvement protestataire historique. Manifestations interdites, des milliers d'arrestations, des procès pour sédition, la fermeture ou la dissolution de tous les médias, syndicats ou associations indépendants. Alors pour tenter malgré tout d'immortaliser leur mouvement, des militants encore libres ont décidé d'agir dans l'ombre. Ils sauvegardent ainsi sur des disques durs les données numériques de quelques institutions pro-démocratie. Il y a par exemple ce musée qui honorait la mémoire des victimes de Tiananmen, fermé officiellement pour raisons d'hygiène et désormais visible en ligne. Il y a aussi ce journal très critique contre la Chine, l'Apple Daily, fermé lui aussi. 2 millions de pages du journal ont pu être archivées grâce à des férus d'informatique, des archives comme une arche de Noé virtuelle de la démocratie hongkongaise, du cybermilitantisme qui n'est pas sans risque. La loi sur la sécurité nationale permet
d'arrêter toute personne qui critique le gouvernement ou le Parti communiste.
Tout autre chose, Sébastien, on respire. En Californie, le général Sherman a été sauvé.
Le général Sherman, vous le connaissez, Fabienne, c'est l'arbre le plus volumineux du monde, un séquoia géant américain, donc de 84 mètres de haut, vieux de plus de 2200 ans, planté en haut de Sequoia Park, l'un des plus beaux parcs de l'Ouest américain. Le général Sherman menacé ces derniers jours par un incendie déclenché par la foudre. On est là sur CNN, vous l'aurez peut-être entendu, les images des flammes qui rongent la Californie à la une des journaux depuis un certain temps maintenant, à une image en particulier qui a fait le tour du monde, des pompiers emballant le pied du général Sherman avec des couvertures ignifugées, de grandes nappes d'aluminium pour protéger cette icône de la biodiversité. Depuis hier, heureusement, les nouvelles sont bonnes, le général comme les autres séquoias du parc ont été épargnés, ces colosses végétaux n'en sont pas à leur premier incendie. Leur énorme écorce de 30 cm d'épaisseur leur permet normalement de résister à la chaleur, mais depuis deux ans, les incendies californiens atteignent de telles intensités que même les très résistants séquoias sont en danger. L'an dernier, le terrible Castle Fire a détruit près de 10 000 séquoias, 10% de la population mondiale de cette espèce.
Sébastien le génie, merci beaucoup. Revenez demain, Sébastien. En attendant, vous partez avec Ella Fitzgerald, Misty, c'est sur France Inter.
Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Whoa. Be the sound of your hello, that music I hear. I get misty whenever you're near. You can say don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own. When I wander through this wonderland alone,
Ella Fitzgerald, formidable, Misty sur France Inter. Partons pour Washington.
France Inter, un jour dans le monde.
L'Amérique, selon Joe Biden, nous cause quelques soucis en ce moment. On l'a évoqué tout à l'heure avec Bertrand Badi. On est bien curieux de savoir, Sébastien Paour, comment on parle de cette colère française du côté des Américains. Une colère qui a quand même mis le temps, mais qui a été entendue.
Oui, c'était pas trop le cas pendant les 48 premières heures la semaine dernière, mais ce matin sur CNN encore, voilà ce que dit la journaliste qui suit le président américain.
And one of the things that the president will be working on this week is trying to schedule that phone call with French President Emmanuel Macron, trying to ease and smooth over.
Elle dit que c'est l'une des lignes à l'agenda de Joe Biden cette semaine, parler à Emmanuel Macron. Ce coup de fil annoncé ce week-end par l'Élysée, qui ne devrait pas avoir lieu aujourd'hui d'après elle, mais dans les prochains jours, Biden dit ce soir qu'il est impatient de lui parler. Les mot, comme trahison de Jean-Yves Le Drian, l'annulation d'une fête pour l'anniversaire d'une bataille franco-américaine de la guerre d'indépendance vendredi à la résidence de l'ambassadeur, puis le rappel de Philippe Etienne à Paris. On finit par payer. On parle de la colère française dans les médias US, même sur les gros networks. Et on ne sait pas s'il y a un lien entre les deux, mais la Maison Blanche annonce aujourd'hui que le travel ban est levé. C'était une promesse du début de mandat Biden. Début novembre, les voyageurs étrangers entièrement vaccinés pourront entrer aux États-Unis. Ça fait un an et demi que les Français et les autres ne peuvent pas venir ici. Annonce faite donc le jour de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU et la veille du rendez-vous avec Boris Johnson à la Maison Blanche.
Alors le Covid justement, Sébastien, avec une autre bonne nouvelle côté vaccination.
Pfizer qui annonce que son vaccin est efficace pour les moins de 12 ans, les 5-11 ans. Le laboratoire espère une autorisation d'urgence début octobre. Autorisation pas encore accordée. En revanche, pour la troisième dose, ça devrait être fait dans la semaine. Biden s'est un peu avancé il y a tout juste un mois quand il présentait un nouveau plan de lutte contre l'épidémie.
Le plan prévoit que chaque adulte reçoive une piqûre de rappel 8 mois après avoir reçu la deuxième dose. En attendant l'approbation de l'Agence de l'alimentation et des médicaments, le comité d'experts du Centre de prévention et de contrôle des maladies sera prêt à lancer ce programme de rappel dans la semaine du 20 septembre.
Il donnait la date d'aujourd'hui, donc 20 septembre. Entre-temps, certains double vaccinés ont filé chez le médecin, se faire faire un rappel. Et voilà le médecin qui conseille la Maison Blanche, Anthony Fauci, le fameux, obligé de freiner.
Il est très peu probable qu'il y ait un risque, mais scientifiquement, il ne faut pas se fier à l'improbable, il faut une preuve. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, nous recommandons que les gens suivent les directives de l'Agence des médicaments et les recommandations du Centre de contrôle des maladies.
Le feu vert des autorités sanitaires devrait donc tomber dans la semaine. En attendant, je vous livre des données toujours aussi effrayantes en provenance des États américains où l'on vaccine le moins. Par exemple, l'Alabama, l'État du Sud, a enregistré plus de décès que de naissances l'an dernier. 65 000 morts, 58 000 naissances. Et cela pourrait se reproduire en 2021. La différence, ce sont des morts du Covid. Les Américains leur rendent hommage ici à Washington aux plus de 670 000 morts du pays, avec autant de petits drapeaux blancs qui sont plantés sur la pelouse, sur le mall devant le Capitole. Ils vont y rester jusqu'à début octobre.
Un autre sujet à gérer pour l'administration américaine, l'administration Biden, oui, c'est la frontière mexicaine.
Oui, encore et toujours avec l'arrivée massive de migrants, notamment haïtiens ces dernières semaines au Texas. Ils ont traversé le Rio Grande. Ils sont 12 000 entassés sous le pont international à Del Rio, sous l'œil des patrouilles de surveillance des frontières. Certains de ces agents décrivent des scènes qu'ils n'ont jamais vues, parlent de crise humanitaire. Le gouvernement Biden a fait décoller hier 3 vols vers Port-au-Prince, avec au total 327 haïtiens reconduits chez eux. Certains avaient fui leur pays après le tremblement de terre en 2010 et ils n'étaient pas rentrés depuis.
Sébastien Paour en direct avec nous depuis Washington, comme chaque lundi. Merci beaucoup, Sébastien.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après et Jean-Marc Four. Jean-Marc, vous êtes frappé par une coïncidence au moment où la crise diplomatique bat son plein entre Paris et Washington après l'histoire donc des sous-marins. C'est donc à ce moment précis que l'Institut de recherche de l'école militaire publie un rapport de 650 pages sur les réseaux d'influence de la Chine. Rapport que la rédaction internationale de Radio France a dévoilé ce matin en avant-première. Comme si Paris renvoyait dos à dos Washington et Pékin au risque de l'isolement. Et c'est votre monde d'après.
Oui, ils ne sont fiables ni les uns, ni les autres, ni les Américains, ni les Chinois. Voilà le sentiment qui tente à émerger devant cette double actualité. Et c'est peut-être précisément les faire chercher par les pouvoirs publics français. D'un côté, il y a donc les Américains, on a compris, le gouvernement français se sent trahi par Washington, et d'abord par Washington, plus encore que par l'Australie. Le rappel des ambassadeurs à Paris, geste rare et surtout l'expression d'un sentiment désagréable de s'être fait rouler, de ne jamais avoir été prévenu de ce qui se tramait en coulisses. C'est pas la rupture du contrat qui pose problème en soi, c'est la question de la confiance. Verdict, Washington, pas fiable. Et dans la foulée, voici donc, vous le disiez, ce rapport édifiant de l'Institut de recherche de l'école militaire, 650 pages, une somme d'une ampleur sans précédent qui décrit par le menu tous les relais d'influence de la Chine, y compris en France, et surtout toutes ces manœuvres de désinformation, des opérations de plus en plus professionnalisées, dit le rapport. Verdict à la lecture des 650 pages, Pékin, pas fiable non plus. Autrement dit, résultat des courses de la séquence complète vue de Paris, on a bien raison de se méfier des Américains comme des Chinois.
Et alors, en même temps, Jean-Marc, vous serez d'accord avec moi, un rapport de chercheur peut pas être mis sur le même plan qu'une crise diplomatique.
C'est exact, à ceci près que l'IRSEM n'est pas un institut de recherche tout à fait ordinaire. Il est certes composé d'une soixantaine de chercheurs, pour moitié résidents, pour moitié associés, qui sont des professionnels de tous horizons, basés dans plusieurs pays. Et ce rapport a probablement été conduit en toute indépendance. Néanmoins, l'IRSEM est aussi l'institut de recherche de l'école militaire, autrement dit rattaché au ministère des Armées. De ce point de vue, on a du mal à penser que cette somme de 650 pages sur la Chine n'a pas été, à tout le moins, lue au plus haut sommet de l'État avant publication. Et si le document avait déplu, il ne serait peut-être pas paru. Autrement dit, la publication de cette enquête n'est sans doute pas pour déplaire au gouvernement français. C'est sans doute qu'un hasard du calendrier, mais elle tombe à pic pour rappeler qu'il faut se méfier aussi de la Chine. Donc, déduction logique de cette double défiance. La seule position sage pour la France, vous en parliez tout à l'heure avec Bertrand Badi, la seule position sage dans le grand enjeu géostratégique de la zone Indo-Pacifique, c'est de se tenir à distance des deux grandes puissances, Pékin comme Washington.
Donc c'est le pari du Nini, hein, on en a vu d'autres. C'est intelligent ou c'est risqué ?
Les deux. C'est intelligent parce que de fait, il est peut-être prudent de ne pas se laisser entraîner dans un face-à-face dangereux entre grandes puissances. Il y a des bruits de bottes en mer de Chine méridionale. Une offensive militaire, par exemple, sur Taïwan, ne peut être écartée totalement avec un risque d'engrenage et il ne serait pas forcément pertinent pour la France de se laisser embarquer dans un tel conflit. C'est intelligent aussi parce que c'est une nouvelle façon pour Paris de réaffirmer la nécessité d'une indépendance européenne en matière de défense. C'est un appel du pied en particulier aux Allemands pour accélérer cette Europe de la défense, vu que d'un côté la Chine est un rival systémique, c'est la formule de Bruxelles, et de l'autre, on ne peut plus faire totalement confiance aux États-Unis, donc à l'OTAN. Enfin, c'est malin sur le plan de la tactique politique. Au moment où la campagne électorale présidentielle débute, ça permet évidemment à Emmanuel Macron d'adopter une posture gaullienne. La grandeur de la France, son indépendance, qui n'est le valet de personne, mais veut parler à tout le monde d'égal à égal. Bref, ça se défend. Mais c'est risqué, d'abord parce que les grandes puissances américaines et chinoises peuvent être tentées de regarder la posture française d'un œil un peu condescendant, et surtout parce que la probabilité est élevée de se retrouver tout seul sur cette position. Nos voisins européens misent toujours sur l'OTAN, sur la suprématie militaire américaine, et n'ont pas coupé le cordon avec Washington, même si quand même Ursula von der Leyen a qualifié d'inacceptable la façon dont la France a été traitée. Bref, il y a un risque de se retrouver tout seul, et tout seul, on ne pèse pas grand-chose. Vous savez ce que disent les Britanniques au sujet de la France. Hein. Le coq, le seul animal qui continue de chanter même quand il a les pieds dans la merde.
Et voilà, merci beaucoup Jean-Marc Four, vous revenez demain. On y reviendra d'ailleurs à la Chine dans Un jour dans le monde demain. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous. Surtout ne changez rien. À tout de suite.